Gloire à Dieu. Ce soir, on va continuer encore l'étude sur les dons de service. On va en avoir un. On a parlé, on l'a survolé un peu la semaine passée, ce don-là, parce que c'est un des dons qui se pratique dans l'Église. Mais pas juste dans l'Église, mais c'est un don qui équipe les membres de l'Église, qui doit être dans chacun des croyants, ce don-là. Puis c'est un don qui fait que quand tu commences à le mettre en pratique, tu es au service de Dieu. Puis il est très important, ce don-là, par rapport que, quand je vais nommer le titre, vous allez comprendre, c'est important pour notre survie spirituelle. C'est le sujet de combattre dans la prière pour les autres. Mais combattre dans la prière, c'est important pour notre survie spirituelle. La prière, c'est comme de la respiration. Si tu te prives de respirer quand tu es un être humain, tu ne feras pas longtemps. Au bout d'une couple de minutes, tu vas tomber à terre. Mais spirituellement, la prière, c'est notre oxygène. C'est là qu'on apprend à parler à Dieu, écouter Dieu, puis être à l'écoute pour être guidé dans ce qu'on a à faire. Puis quand on voit qu'on a des combats, des difficultés, des problèmes, que les gens passent à travers toutes sortes de choses difficiles, on a besoin de prier pour eux pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que la prière, non seulement elle nous aide à se maintenir vivants spirituellement puis bouillants pour le Seigneur, mais ça nous aide aussi à passer à travers nos moments difficiles. Puis ça nous donne aussi de la force pour passer à travers les moments difficiles. Avant même qu'on soit en train de les passer, les problèmes difficiles, il faut déjà être équipé de la force du Seigneur pour pouvoir se passer à travers. On voit le premier passage qu'on va voir, c'est dans Colossiens 4:12. Ça nous dit qu'un serviteur de Dieu est un combattant dans la prière. Puis on parle du don de service, mais c'est les serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Le personnage qui se fait mentionner par Paul, il se fait appeler un serviteur de Jésus-Christ. Et Paul qui est en train de parler, il dit « Épaphras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Ce qu'on voit, la première chose qu'on remarque dans ce passage-là, c'est que Épaphras, il se fait traiter de serviteur de Dieu. C'est pas une insulte, c'est une bénédiction de se faire traiter de serviteur de Dieu. Pourquoi? Quelle caractéristique y a ce serviteur de Dieu-là? C'est un combattant dans ses prières. Puis il ne cesse de combattre pour les autres dans ses prières. Pourquoi qu'une personne pourrait combattre pour les autres? Puis pour quel sujet aussi qu'il faudrait combattre pour les autres? Je sais que souvent, quand on est nouveau, surtout, des fois on a de la misère à se discipliner et à rentrer dans la prière. Des fois, il y en a que ça va bien, ils commencent à prier tout de suite quand ils se sont convertis, puis ils décident de prendre du temps chaque jour pour prier. Mais il y en a qui ont de la misère. Qu'est-ce que ça prend dans ce temps-là? Ça prend comme une maman qui nourrit son enfant, puis qui tape des tapes dans le dos, fait son petit rapport, puis changer ses couches. Ça prend quelqu'un qui entoure le nouveau-né. Mais dans le Seigneur, c'est la même chose. Il faut combattre pour les frères et sœurs. Les frères et sœurs qui sont nouveau-nés dans le Seigneur, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin qu'on prie pour eux autres. Ils ont besoin qu'on prenne soin. Pareil comme si on prendrait soin d'un bébé. Un bébé, lui, il s'en rend même pas compte qu'il se fait prendre soin de lui. C'est incrédu. À 35 ans, quand lui-même a commencé à prendre soin de son enfant, qui s'aperçoit que sa mère, elle a pris soin de lui comme lui. Mais là, avant ça, on s'en rend pas compte des fois que tout l'ouvrage que les autres ont eu pour lui. Mais dans le Seigneur, c'est un peu la même affaire. Un nouveau-né spirituel, il a pas tout le temps pris de manger tout de suite par lui-même. Il faut que tu le nourrisses, tu pries pour lui. Mais Épaphras, ça nous dit qu'il combattait pour eux, continuellement, comme l'ouvrage d'une mère envers son enfant, c'est sans arrêt. Puis c'était quoi le but de ses prières? Afin que ces gens-là, ils deviennent parfaits, puis pleinement persuadés, pour qu'ils persistent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pour que ces gens-là puissent réaliser c'est quoi le chemin, puis continuer à persévérer, à pas lâcher, à rester soumis à la volonté de Dieu, tant qu'ils sont sur la terre. Fait que faut commencer à prier, si on ne l'a pas déjà fait, à prier les uns pour les autres, pour que tout le monde puisse grandir dans le Seigneur, puis que tout le monde puisse aller de l'avant, devenir des soldats à leur tour qui vont prier pour les autres. C'est un don que Dieu donne, le don de combattre dans la prière pour les autres. C'est un don de service. C'est une action qu'on fait qui est nécessaire pour nous-mêmes, ça nous fait du bien, mais aussi pour ceux qui vont recevoir les exaucements. Nous devons veiller à toujours prier pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que souvent, on prie pour nous-mêmes. C'est correct de prier pour nous-mêmes. Mais ça doit pas juste être pour nous-mêmes, parce que ça devient égoïste un peu. On pense souvent à nous, puis on prie pour nous, puis on aimerait ça être béni, puis on aimerait ça en avoir plus que les autres, mais faut considérer les besoins des autres aussi importants que les nôtres, puis c'est ensemble. Si je commence à prier pour chacun de vous, et vous, chacun de vous, vous priez pour chacun de ceux qui sont autour de vous, ça devient une équipe solide, puis Dieu va nous bénir, puis Dieu va nous faire grandir. Dans Éphésiens 6, 18, ça nous dit « Faites en tout le temps, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières, des supplications, veillez à cela qu'une entière persévérance, puis priez pour tous les saints. » En tout temps, des prières puis des supplications. Prier, c'est demander. On demande à Dieu « Seigneur, je te prie pour Barnard, puis d'y accorder ce qu'il a de besoin, je te prie pour un tel. » Ça, c'est demander, prier. Mais supplier, c'est un peu plus intense. C'est, t'es devant Dieu, puis t'insistes, là, puis t'as des émotions avec ça. Là. Tu mets de ton cœur, puis tu supplies. Supplier, en général, il y a aussi des paroles avec des larmes, puis... Je sais que c'est pas tout le monde qui sont rendus dans ce niveau-là, dans la prière, mais il y en a qui l'ont vécu, puis il y en a qui, comme Jésus, il est en train de prier à un moment donné, il a tellement prié intensément que ça nous dit dans le passage que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Mais ça, c'est intense. Je sais qu'on n'est pas rendu jusqu'à ce point-là, à devenir comme à prier à l'agonie, mais ça se fait, Jésus l'a fait, on le voit dans la parole de Dieu, mais on doit apprendre à faire des prières, puis de supplier Dieu pour nous, avec une entière persévérance, puis de prier pour tous les saints, parce qu'on a tous de besoin, si on veut rester debout jusqu'à la fin. Dieu, dans sa parole, il nous confirme son désir d'exaucer nos prières, puis de nous voir prier sans arrêt. Dieu nous le confirme dans sa parole. Puis c'est justement le verset que je vous ai récité tantôt dans 1 Jean 5, 14. Il veut nous exaucer. Il veut qu'on ait de la foi, qu'on croit que quand on demande de quoi, il veut le faire. Première chose qu'il faut savoir avant de prier, est-ce que c'est la volonté de Dieu d'exaucer telle chose? Là, on se demande, est-ce que Dieu veut que j'aille du travail? Un exemple. Oui, Dieu nous dit dans la parole qu'il faut travailler nos mains pour avoir de quoi pour nos besoins, puis en même temps pour avoir de quoi donner aux autres. Mais on le sait, donc, quand que je vais prier pour du travail, est-ce que je dois douter? Je vais-tu dire, peut-être que Dieu veut pas que j'aille du travail, ou peut-être que Dieu n'est pas capable, ou Dieu n'a pas le temps de s'occuper de moi et de m'accorder un travail. Non. Il faut se dire, c'est la volonté de Dieu que je travaille, puis Dieu veut que je travaille, puis Dieu va pourvoir un travail. Puis Seigneur, je te demande de me pourvoir un travail, puis je doute pas. J'ai confiance que je demande quelque chose selon sa volonté. Ça nous dit, dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'important, c'est juste de savoir, c'est de sa volonté. Seigneur, j'aimerais ça gagner à 6,49. Là, je suis pas sûr que c'est sa volonté. Je vais avoir des doutes, puis c'est correct d'avoir des doutes, parce qu'il n'y a pas de verset qui me dit « Dieu veut vous gagner à la loterie ». Mais il y a des versets qui parlent de travail, fait qu'on est sûr que... Mais il y en a plein de promesses dans la parole de Dieu sur toutes sortes de sujets. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Une fois que tu dis « Dieu veut que je sois guéri », tu peux demander à Dieu des guérisons, puis Dieu est capable de te guérir. Parce qu'il l'a déjà fait, puis il va le faire encore. Fait que si je demande, j'ai cette assurance que Jean dit, que si je demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute quelque chose qu'on demande, nous savons que nous possédons la chose que lui avons demandée. Ça veut dire, t'as une double assurance. T'es sûr que si tu demandes de quoi selon sa volonté, il va t'écouter. Puis la deuxième assurance, que tu sais que quand il t'écoute quelque chose selon ta volonté, tu sais que tu possèdes la chose que tu as demandé. C'est assuré que Dieu va le faire. Il s'agit de rentrer dans cette dimension de foi. Dieu veut qu'on rentre dans cette dimension de foi, qu'on soit capable de présenter des prières sans douter. On y croit, on sait qu'il nous écoute. Puis je le sais que je possède que ce qu'il va me donner, parce que c'est à sa volonté. Amen.
Amen.
Jésus, il est compatissant. La Bible nous dit que Jésus, là, il a souffert sur la terre. Ici, c'est quoi la vie d'un humain? Ici, c'est quoi les tentations, les épreuves, les besoins, les souffrances? Il connaît ça. Puis il est compatissant. Puis il est capable de compatir à nos souffrances, à nos besoins. Il est sensible à ce qu'on vit. Puis à cause de ça, ça nous dit dans Hébreux 4:15, nous on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en, comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus est un souverain sacrificateur qui est compatissant, puis il comprend la souffrance, puis nos besoins, puis nos combats, puis nos difficultés, nos luttes. Il a passé par là. Puis à cause qu'on a ce souverain sacrificateur-là dans les cieux, Jésus, il prie pour nous, puis il a compassion de nous, ça nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. À cause qu'on le sait que Jésus est compatissant, la Bible nous le dit, il dit « Approchez-vous du trône de grâce, puis commencez à prier pour vos besoins. » Dieu, il est sensible à nos besoins. Il veut exaucer nos prières, puis il nous dit « Faites-y confiance, approchez-vous, vous allez obtenir que Dieu va avoir pitié de vous, puis Dieu, il va vous donner vos besoins, selon vos besoins. » Un autre verset, Jésus dit à ses disciples, il nous demande d'avoir foi en Dieu. Il dit dans Marc 11:22, ayez foi en Dieu. Ça veut dire d'avoir confiance que Dieu nous aime, que Dieu y est là, que Dieu veut prendre soin de nous, que Dieu nous accompagne, que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut pourvoir, que Dieu veut nous accompagner, qu'il veut être avec ce qu'on fait puis nous faire réussir dans ce qu'on a à faire. Mais il faut avoir la foi qu'il veut le faire. Il faut y croire. Parce que si on y croit pas, on va avoir de la misère à y demander. Il faut apprendre avant n'importe quoi. Avant de commencer n'importe quoi, il faut apprendre avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Ça nous dit dans 1 Timothée 2, le verset 1, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Avant de faire quoi que ce soit, mettons-nous à prier. On veut réussir dans ce qu'on a à faire, mais Dieu veut nous faire réussir. Mais il faut apprendre à lui mettre ça entre ses mains, à lui faire confiance, à lui, par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, avant n'importe quoi. Puis là, il nous dit dans ce même verset-là, à faire ce genre de prière-là, pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, Dieu nous appelle avant de faire quoi que ce soit, mettez-vous en prière, puis priez en même temps pour les rois, pour ceux qui dirigent, priez pour tous les hommes. Fait que Dieu veut qu'on intercède pour tout le monde. C'est un don de service de se mettre à combattre dans la prière pour tout le monde. Dieu cherche des combattants ce soir, des gens qui veulent s'engager à prier. Priez, puis continuez à prier, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose quand on se met à prier. Puis il nous dit de prier pour ceux qui dirigent notre pays. Pourquoi? Pour qu'on mène une vie paisible et tranquille, puis qu'on n'ait pas des lois qui viennent nous empêcher de pratiquer notre foi, et etc. Fait que Dieu nous appelle à prier pour les autres dans l'Église, mais prier aussi les autres qui sont en dehors de l'Église. La prière, là, c'est le seul endroit pour aller chercher la force. On a besoin de force, ça on s'en rend pas compte, là, mais être une personne normale de ce monde, il n'y a rien là. Tu te laisses aller dans tout ce qui passe devant toi, tous les péchés qui peuvent se pratiquer, tu es d'accord, puis tu embarques dans tout. Dans le monde, sont, ils n'ont pas de frein dans leur course. Tu entends tous les jours des choses à la TV ou à la radio, des affaires que tu vois que la morale a pris une débarque. Mais c'est pas dur aujourd'hui, tu as juste à te laisser aller puis tu deviens comme tout le monde. Mais décider de devenir chrétien puis de vouloir marcher dans la sainteté, dans la pureté, puis de combattre, ça prend de la force. Pour rester avec une persévérance, ça prend un niveau moral élevé parce que tu t'es contre le courant, t'es contre tout le monde. Puis tout le monde, pas tout le monde, mais ça arrive qu'on se fait rire de nous autres, qu'on se fait parler dans le dos parce qu'on est chrétien, puis le monde se moque de cela. Puis ça prend une force morale, puis une force spirituelle pour être capable de persévérer, puis garder une morale, puis aller jusqu'au bout, malgré l'opposition. Mais c'est dans la prière qu'on va chercher cette force-là. Jésus nous dit dans Luc 21, le verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Encore un autre verset qui nous dit « Priez tout le temps. » « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Parce que quand Jésus va revenir, ça va être encore plus laide sur la terre. Ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est rien. Des petits changements climatiques, des petites affaires, des petites sécheresses-ci, des inondations-là, des tremblements de temps en temps. Mais il va arriver des choses plus pires. Mais il veut qu'on s'arme d'une force qui n'est pas de la force terrestre ou de la force humaine. C'est la force spirituelle de Dieu. Puis il faut aller la chercher en Dieu, cette force-là. Il faut commencer à prier en tout temps pour avoir la force. C'est Jésus qui nous dit ça. Priez pour avoir la force. Fait qu'on doit commencer, on doit déjà être en train de prier, puis on doit être en train de se dire, faut que je prie davantage pour être toujours dans la force du Seigneur. Faut que je sois maintenu dans sa force, sinon ça va être tough tantôt. Persévérons dans la prière. Dieu cherche des gens comme le prophète Daniel. Je sais pas, je vais vous lire un petit passage de la vie du prophète Daniel. Puis il se laissait pas intimider, puis il persévérait dans le combat. Dans un exemple de sa vie, dans une pause de sa vie. Parce que Daniel, c'est un homme qui priait Dieu, puis il priait Dieu. C'était le prophète Daniel, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. C'est un homme qui priait Dieu. Puis dans son temps, le peuple d'Israël s'était fait déporter à Babylone. Puis le roi de Babylone avait été renversé par les Mèdes et les Perses. Puis le roi de Perse qui régnait sur le territoire de quasiment toute la terre dans cette époque-là, mais les Juifs avaient été déportés à Babylone. Babylone, la grande ville, la grande capitale. Puis Daniel est un Juif, un des Juifs qui avait été déporté, mais c'est un homme qui était très intelligent, puis il marchait en contact avec Dieu. Puis il y avait trois de ses compagnons avec lui, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient les trois compagnons de Daniel, il était quatre, qui étaient à la cour du roi. Puis, il devait apprendre les choses du roi, puis il devait servir le roi dans toute la sagesse puis l'instruction qu'il avait reçue. Puis en plus de ça, Daniel marchait avec Dieu, puis Daniel avait eu des messages de Dieu pour le roi Nébuchadnezzar. Et aussi, il y a eu un très bon témoignage avec le roi des Mèdes et des Perses. Sauf qu'il y a du monde qui était jaloux de Daniel, parce que Daniel t'a poussé à mettre à être le premier personnage auprès du roi, parce que Daniel était un homme intelligent, puis il voulait le roi voulait le placer dans un très haut poste. Puis ceux qui l'entouraient étaient jaloux de Daniel. Ils ont cherché une manigance pour faire tomber Daniel. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir le roi de Perse, qui régnait sur le territoire. Puis il a dit, « Ô roi, on va te demander de passer une loi que si quelqu'un priait un autre Dieu autre que toi, ô roi, pendant un mois de temps, qu'on le jetterait dans la fosse au lion. » Le roi, sur le coup, était d'accord. Puis il a scellé cette chose-là, comme un décret par son sceau, qu'une fois que le sceau du roi a été mis là-dessus, il n'y avait rien pour arrêter ce décret-là. Personne, pendant un mois de temps, avait le droit de prier un dieu quelconque autre que prier le roi. Là, Daniel, tout le monde a entendu ça. Puis Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il s'en foutait. Il dit, moi, il a continué à prier. Ça nous dit dans l'histoire, dans Daniel au chapitre 6, le verset 8, maintenant, au roi, là, c'est les gens qui le demandent au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, puis il priait, puis il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Même s'il y avait une défense par le roi des Mèdes et des Perses, qui est un homme quand même de haute autorité, là, il régnait sur toute la terre, c'est un conquérant, comme le successeur de Nébuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, mais Babylone était renversée, puis c'était les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir. Daniel n'a pas eu peur, puis il a continué à prier trois fois par jour, il priait, puis il louait son Dieu. Puis comme de fait, les gens, ils ont dénoncé Daniel, puis Daniel est allé voir le roi, ils ont amené Daniel au roi, puis à cause de la sentence qui avait été signée par le roi, Daniel était jeté dans la fosse au lion, mais ça faisait de la peine au roi, parce que le roi, il aimait Daniel, il voulait l'élever dans le plus haut poste de son pays. Puis il était là toute la nuit, puis là, je peux vous raconter la fin de l'histoire. Le lendemain matin, le roi, il s'en va de bonne heure au bord de la fosse. C'est une fosse, c'est un trou. Il y avait des lions dans le fond. Daniel a été garoché dans la fosse. Le roi, il s'est en allé sur le bord à première heure le matin, puis il est allé là comme en pleurant quasiment. Là. Il est allé voir, « Daniel, ton Dieu, as-tu réussi à te délivrer de la gueule du lion? » Puis là, Daniel a répondu au roi. Gloire à Dieu. Il dit, sache au roi que mon Dieu a fermé la gueule des lions. Le roi, il était content. Il a sorti Daniel de là. Puis tous ceux qui avaient voulu que Daniel soit condamné, il les a pris. Il les a pris, eux et leur famille. Ils les ont garochés dans la fosse. Ils ont même pas arrivé à toucher le sol que les lions sont jetés dessus. Puis ils les ont brisés en morceaux. Toute la gang. Toutes les familles au complet ont été jetées là. Mais c'était une grande victoire pour Daniel qui servait son Dieu. Puis que son Dieu a su le préserver, le protéger. Que malgré que peu importe ce qui arrive, le roi, le plus grand roi, le plus terrible des rois, un conquérant, un tueur, c'est un tueur. Il a fait massacrer des multitudes, des royaumes. Il a attaqué des royaumes, ce roi-là. Daniel n'a pas eu peur, puis il a continué à prier son Dieu trois fois par jour, sans arrêter. C'est ça qui est le beau de l'histoire. La persévérance dans la prière, malgré les menaces, Daniel, il était rempli de la force du Seigneur pour être capable d'aller puis de le faire malgré. Il aurait pu être mort, mais Dieu l'a délivré. Puis ça l'a servi, cette histoire-là, à la gloire de Dieu, parce que Darius a reconnu que le Dieu de Daniel était un Dieu, était le vrai Dieu. On voit aussi dans le Nouveau Testament comment est-ce que l'apôtre Paul, c'est un homme qui avait à cœur les gens qui étaient autour de lui. Il ouvrait des églises partout, mais c'est un gars qui... Il avait tellement à cœur qu'il nous dit dans un passage, dans 1 Thessaloniciens 3:10, il dit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Nuit et jour, avec une extrême ardeur, il priait Dieu, que Dieu permette que Paul puisse aller voir ces chrétiens-là à Thessalonique pour pouvoir... Parce que Paul avait à cœur de leur donner pour compléter leur foi. Continuer peut-être à leur enseigner certaines choses ou à prier pour eux pour qu'ils reçoivent certains dons. On voit le cœur d'un homme de Dieu affermi. C'est un homme de prière puis qui prête instance nuit et jour pour ses frères et sœurs pour les voir grandir dans la foi. Un combattant, il lutte sans laisser entrer le doute. Et il croit que Dieu va le faire, puis que Dieu va répondre. Jacques, il nous en parle pour nous donner un exemple de prier sans douter. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. On voit dans ce passage-là le désir de Dieu d'exaucer nos prières. Tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Il donne à tous, simplement et sans reproche, elle va nous être accordée. Mais il dit, doute pas quand tu demandes. Ben, si tu doutes, t'es comme un roseau qui est ballotté par le vent. Il dit que tu n'auras pas d'exaucement de prière. Mais si tu doutes pas, tu crois que Dieu t'entend, tu vas être exaucé, puis Dieu va te donner tout ce que tu as besoin, tout ce que le peuple de Dieu a besoin, puis on va grandir. Un dernier verset, qui est un bel exemple de prière les uns pour les autres. Dans Jacques 5:13, ça dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Tu as des souffrances? Prie. Quelqu'un est dans la joie? Mais chante des cantiques. Quelqu'un est malade? Qui appelle les anciens de l'Église. Puis que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Allons à Dieu, parce que Dieu, il veut qu'on prie, qu'on y remette nos besoins, sans douter, on va être exaucé, et après ça, prions pour les autres qui sont malades, puis on va voir plein d'exaucements. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. On vient te remercier pour ta parole qui est vraie, pour ta parole qui nous enseigne qu'il faut prier. Apprends à chacun à prier avec foi, avec ferveur, avec ardeur, qu'on puisse intercéder par des prières, des supplications, des requêtes, avec des actions de grâce, qu'on puisse apprendre à prier sans cesse, nuit et jour, persévérer dans la prière. On veut voir ton œuvre avancer, Seigneur, on veut voir nous-mêmes, on veut être inébranlable, qu'on soit rempli de ta force produite par ton Saint-Esprit, mais que mes frères et sœurs aussi puissent grandir puis devenir inébranlables dans la foi puis persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour cet accès que tu nous donnes qu'on puisse te faire connaître nos besoins. Nous remettons tout entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.